Grand Dialogue
Sigi Kafoba
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 9 octobre 2014. Bienvenue à ce Grand Dialogue. Nous tentons de comprendre l'ampleur des accidents au Mali. Cette émission parlera de trois axes. Le bilan des accidents au Mali, la prévention des accidents et l'état des infrastructures et du parc roulant dans le pays. Nos invités, Dr Boubacar Cissé, médecin au service d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré, Djigui Camara de l'auto-école Wassoulou et la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière est également avec nous à Sansila. Nous avons un représentant de la protection civile, Kabaye Koulibaly. Merci à vous pour votre présence et votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara est à la mise en œuvre. Tous les ans, c'est près d'1 milliard de francs CFA qui sont mobilisés pour la sensibilisation des usagers aux risques liés à la route. Au même moment, plusieurs milliers d'usagers perdent la vie sur la route, d'autres restent invalides à vie et le chaos concerne le plus souvent les jeunes gens. Les risques de la route, énième débat sur la question ici au studio Tamani. Vous aurez dans quelques instants les dernières données sur le sujet avec nos invités. Alors, pour commencer ce premier tour de table sur le bilan des accidents au Mali, lieutenant Kabaye Koulibaly, quel bilan peut-on tirer sur les accidents provoqués au Mali?
D'accord, merci beaucoup, merci, je vous remercie tous. Le bilan réel du Mali actuel, bon, je n'ai pas les chiffres, mais au moins c'est un recueil de données sous mes yeux, en l'occurrence, c'est-à-dire la journée consacrée sur la fête de Tabaski, où au moins on a consacré 3 jours de sortie pour voir en réalité ce que ça pouvait donner. On a mis un dispositif en place pour voir en réalité quels sont réellement l'enjeu vraiment de la ville de Bamako. Et les 4, les 5 et les 6, peut-être nous avons fait sortir des engins sur les axes réellement consacrés, sur les grands accidents que nous pouvons constater à Bamako ici. Si je donne les chiffres, nous sommes au total 129 sorties, dont 205 victimes, c'est 3 morts.
Donc, si donc ça, c'est dans l'intervalle de la fête à...
Ça, c'est les 3 jours.
Les 3 jours de fête.
Les 4, les 5, c'est-à-dire un jour avant, pendant et un jour après. Voilà, les 4, les 5 et les 6. Voilà. Si je prends les accidents, nous avons à peu près 31 sorties pour mon centre de Dravela. Donc 68 victimes, 2 morts, ça il faut le dire ainsi. Si nous prenons les 5, il y a eu 42 sorties, 87 victimes, il n'y a pas eu de morts. Si nous prenons les 6, octobre, ça c'est 37 sorties, 43 victimes, il n'y a pas eu de morts. Le total fait 110 sorties, 498 victimes et 2 morts. Alors, c'est les accidents. En incendie, quand même, ça, le nombre était un peu réduit. Les 4, il y a eu 2 sorties, 3 victimes. Les 5, il y a eu 6 sorties. Et les 6, il n'y a pas eu de sorties. Donc, le total fait 8 sorties, 3 victimes. Si nous regardons, il y a d'autres situations qui peuvent se passer, autres que l'accident, on appelle toutes les sorties de secours. Personne tombée dans un puits, personne prise de malaise. Bon, ça, c'est les divers que nous prenons. Les 4, il y a eu à peu près 4 sorties, dont 3 victimes. Les 5, il y a eu 3 sorties, 3 victimes. Les 6, il y a eu 4 sorties, 3 victimes, et le total fait 11, dont 9 victimes et 2 mort.
Ça, c'est seulement sur les 3 jours. Alors, j'imagine que madame a plus de chiffres, car là, on réfléchit sur le niveau national. Quels sont ces chiffres détaillés et le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de la situation, madame?
Okay, merci. Bon, en matière de chiffres, nous ne sommes pas habilités à donner des chiffres par mois ou par jour. Parce qu'on a un mécanisme de compilation des statistiques d'accidents annuels. Ce système de compilation regroupe l'ensemble des acteurs intervenant dans la collecte et le traitement des statistiques d'accidents. Donc, nous, les statistiques qu'on donne, ce sont des statistiques officielles du Mali.
les statistiques dont nous disposons aujourd'hui. Ce sont des statistiques de l'année 2013. Parce que c'est l'année suivante qu'on fait donne les statistiques de l'année précédente. Et les statistiques de l'année 2014 seront compilées, traitées et consolidées en 2015.
Mais à ce stade, peut-on faire une évaluation déjà par rapport à la situation
à la situation de l'année précédente, bon. À moins que je vous donne les tendances, c'est-à-dire qu'il y a une légère amélioration. Mais je ne veux pas m'hasarder à donner des statistiques qui n'ont pas été validées par qui de droit. Ce que je peux dire, par rapport aux statistiques de l'année 2013, déjà, il y a eu une diminution par rapport à l'année 2012. En 2013, ce qu'on a recensé comme nombre d'accidents, toutes catégories confondues, c'est-à-dire automoto, motomoto, auto-auto, même les piétons. On a recensé sur le territoire national 6059 accidents qui ont donné un total de 8815 victimes. Parmi ces victimes, quand on dit victimes, il y a blessés et tués là-dedans. Parmi ces victimes-là, il y a 529 qui ont été tués sur toute l'étendue du territoire national en 2013. Et si on prend ces chiffres et on les compare à l'année 2012, il y a eu une légère baisse en matière d'accidents, surtout en matière de tués. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes très satisfaits, parce que même un tué est un tué de trop en sécurité routière. Mais les chiffres qu'on peut donner, ce sont ces chiffres-là, de façon officielle. Mais nous aussi, nous avons fait un tour dans les hôpitaux parce qu'on a mené une campagne de sensibilisation avant, pendant et après la fête. C'est une tradition à la Nazaire. Et je ne sais pas si vous avez même constaté, la circulation était fluide ce jour-là. Ça a été fait en collaboration avec la Nazaire par la CSR. Parce que nous appuyons chaque année la police et la gendarmerie pour organiser des contrôles routiers. Et la veille de la fête, même pendant la fête, on a appuyé en moyen la police pour faire des contrôles et surtout pour rendre la circulation fluide.
Alors, nous allons rentrer en détail dans la deuxième partie par rapport à cet aspect. Je rappelle juste que nous avons également invité à ce débat, mais nous n'avons pas eu de suite favorable, la police nationale pour venir un peu débattre de cette question. Alors, juste avant d'aller dans les hôpitaux, nous avons un représentant d'une auto-école qui est là aujourd'hui, monsieur Camara. Djiki Camara, c'est bien ça?
Oui, c'est bien.
De l'auto-école Wassoulou.
Oui.
Alors, vous avez entendu tout à l'heure tous ces chiffres donnés par la protection civile et madame la directrice générale de la Nazaire. Ces chiffres, sans pour autant les commenter, font froid au dos. Est-ce que, en amont, il n'y a pas eu une faille du côté de ces écoles-là ou bien dans la structure même de la délivrance des permis de conduire, des conducteurs? Moto ou auto?
Ok. D'abord, je dis bonsoir à tout le monde, à tout l'auditoire. Mais simplement, ce que je veux vous dire, il n'y a pas eu défaillance. Je ne dirais pas qu'il y a eu défaillance à la façon de délivrer les permis de conduire. Mais seulement, le gros du problème, c'est un problème de comportement dans notre circulation. Avant de passer le permis, on subit un test, une évaluation qui est faite par les inspecteurs au permis de conduire, en théorie aussi bien qu'en pratique. C'est après ces évaluations qu'on a le permis. Mais une fois que les gens ont le permis, ils ne respectent plus ce qui se passe dans la circulation. Et ceux qui n'ont pas le permis aussi, des fois, prennent ces engins pour conduire. Et là, le problème, d'après le monsieur de la protection civile.
Lieutenant Kabaï.
Voilà, lieutenant Kabaï et avec madame la directrice qui ont parlé des chiffres, des victimes et autres. Mais vous verrez que parmi ces victimes-là, il y a une partie des victimes qu'on n'en parle pas beaucoup Ça, ce sont les piétons. Très généralement, il y a les bonnes qui quittent nos villages, qui viennent en ville pour travailler. Or, là où elles sont accueillies comme familles d'accueil, ces familles-là ne les utilisent pas toujours à bon escient. Parce que quelqu'un qui vient de mon village, tout de suite, on l'envoie à la boutique payer du pain. Or, avant d'atteindre la boutique, elle doit traverser le goudron. Mais il y a un enfant de la famille qui est un peu habitué à traverser le goudron, on l'envoie à la bonne. Vous voyez un peu le problème qui est là. Le chef de famille qui est content, qui voit que son enfant a le DEF, on lui paye une moto et puis il doit aller à l'école avec parce que lui, il n'a pas le temps.
Ces données-là viennent en appui à ce que madame a dit, mais est-ce que, oui, de votre côté, les apprentis de Sotrama, les chauffeurs de camion ben passent tous à leurs différents tests, aux tests obligatoires aujourd'hui dans les différentes écoles d'automobile?
Bon, dans les auto-écoles, c'est lucratif. Hein, on ne peut pas venir à une auto-école parce qu'on veut se former. Il faut venir payer. Mais le coût est tel que c'est quand même à la possibilité de tout Malien qui veut avoir un permis.
Mais digne de ce nom.
Digne de ce nom. C'est ce que je veux dire. Et une fois on est formé, et quand on quitte l'école, on a le permis, des fois on se comporte autrement. Ce n'est pas ce qu'on apprend qu'on le fait. Et chez nous, le gros du problème est que personne ne veut apprendre. Ça arrive une fois la personne quitte, à chaque fois qu'on veut donner des conseils, c'est pas si vous circulez, vous conduisez vous-même ou vous faites conduire. Quand même, à chaque fois que vous avez voulu donner un bon conseil à quelqu'un, vous voyez que c'est des jeux de y a des mots vraiment qui sont pas bien. Ouais. Or, je crois avec la NASER et autres, il y a eu plusieurs formations au niveau des apprentis chauffeurs, des chauffeurs autres. Mais quelquefois, chez nous, on ne veut pas changer. Ouais. Je vais vous dire un petit problème qui est dans notre circulation aujourd'hui.
Alors, juste avant cela, nous, oui, allons permettre aux hôpitaux,
oui,
avec leur représentant qui est ici aujourd'hui,
okay,
Boubacar Cissé. Docteur Cissé, est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, à l'état actuel des choses, il y a plus de morts lors des accidents de circulation que l'année dernière?
Merci bien. Je parle sous couvert de mon chef, le professeur Django, du service d'accueil des urgences. Moi, je pense que je vais rejoindre, commandant madame, de la directrice de la NASER. C'est-à-dire la création du service des urgences en 2008 à maintenant. Nous, on avait en moyenne 105 blés accidentés par jour. Maintenant, ça a chuté jusqu'à venir vers les 80. Maintenant, on est dans les 65-60 accidentés par jour. Moi-même, j'étais de garde la veille de la fête. On a enregistré 95 accidents. Donc il y a eu deux morts sur le coup. Moi, je n'exprime pas en termes d'accident. Il peut y avoir beaucoup d'accidents, mais c'est le nombre de morts ou de préjudices corporels que ça engendre qui pose problème. Donc moi, j'en appelle quand même. Il y a toujours des accidents, le nombre a diminué, mais j'appelle surtout les autorités sécuritaires et politiques vraiment pour qu'ils prennent. Malgré la sensibilisation de la NASER, c'est-à-dire, comment dire, là, il faut se comporter bien dans la circulation. Vraiment, je peux dire que le bilan est dramatique. Oui.
Merci beaucoup, docteur. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, Studio Tamani, ou sur notre page Twitter, Studio Tamani, et également sur ces deux réseaux sociaux. Nous avons comme thème aujourd'hui la circulation, la sécurité routière et le rôle des acteurs qui sont impliqués dans le domaine. Nous avons comme invité le docteur Boubacar Cissé du service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, Djiki Camara de l'auto-école Wassou, Asensila, directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière, et le lieutenant Kabay Koulibaly de la protection civile. Alors, la deuxième partie donc de ce débat est consacrée à la prévention des accidents. Fait-on le nécessaire pour sensibiliser les conducteurs, madame? Pensez-vous que les différents services, y compris le vôtre, font le nécessaire?
Bon, vous savez, pour tout effort, on ne peut pas dire que l'objectif est atteint à 100%. Mais si on regarde de la création de l'ANASER à maintenant, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il y a eu également des améliorations par rapport à la sécurité routière. Parce que la preuve en est que le nombre d'accidents diminue d'année en année. Mais comme j'ai eu à le dire, un tué est un tué de trop sur la route. Et effectivement, il faut que nous redoublions d'efforts. Pourquoi? Parce que de 2007-2006 à maintenant, on a sensibilisé, on a conscientisé. Mais jusqu'à présent, l'objectif que nous sommes fixés n'est pas encore atteint. Pourquoi? Nous qui sommes sur le terrain, qu'on est en contact direct avec les usagers de la route, parce que nous sommes l'opérationnel. Nous sommes sur le terrain comme la police, comme la gendarmerie. C'est ce que nous constatons. Et il arrive que des usagers, comme M. Camara l'a dit, qui ont le permis, surtout les professionnels, sinon on ne peut pas penser un conducteur de Sotrama ou bien un conducteur de bus, de transport interurbain, quand même un professionnel qui a son entreprise, parce que son véhicule peut être considéré comme son entreprise, qui a son permis et qui continue à violer le code de la route.
Madame, juste une parenthèse, on sait que la plupart de ces conducteurs-là, de ces chefs d'entreprise, comme vous les appelez, reçoivent leur permis à domicile.
Bon, c'est vous qui les dites. Moi, je n'ai pas la preuve. Parce que je n'ai pas du tout la preuve, donc vous le dites, ça peut être vrai. Mais moi, je n'ai pas la preuve, je ne peux pas le dire. Mais quand même, quelqu'un qui a choisi de ne faire
que ça,
que cela comme métier, a le devoir, a même l'obligation d'apprendre. Même si on vous donne son permis à la maison, même si on donne son permis à la maison, on doit quand même pouvoir renforcer ses capacités. Parce que c'est ça que vous avez choisi comme métier. Mais il arrive que ceci, souvent nous, comme M. Camara l'a dit, en les formant, on se rend compte que réellement, il y a de ces techniques que ces gens-là ignorent. Et souvent, ce n'est pas parce qu'ils ont refusé, mais non seulement ils n'ont pas eu le moyen, comme il a dit, tout le monde n'a pas le moyen aujourd'hui d'aller s'inscrire à une auto-école. Ça, c'est un de deux.
C'est pas obligatoire?
C'est pas obligatoire. Non. Le code ne rend pas obligatoire de passer obligatoirement par une auto-école. Mais nous sommes en train de relire le code de la route pour amener les gens à aller dans les auto-écoles.
Mais l'examen théorique, quand même.
Mais l'examen théorique et pratique est obligatoire. Personne ne peut avoir son permis sans passer la théorie et la pratique, comme il a dit, avec les inspecteurs de permis. Donc, on constate qu'il y a des gens qui ont leur permis, qui ont eu leur permis en bonne et due forme, par les moyens légaux, par la voie légale.
Mais qui ignorent totalement le code de la route.
Non seulement qui ignorent, ou bien certains qui refusent de respecter le code de la route parce que Makoute Kola. Le mal est aujourd'hui, je m'en fous, on s'en fout, on est dans la circulation.
C'est le terme générique.
La route n'appartient qu'à moi, je ne la partage avec personne, c'est moi seul qui suis là. Donc, je fais ce que je veux.
En résumé, c'est de l'incivisme.
C'est de l'incivisme, comme M. Camara l'a dit, c'est un problème comportemental. Vous savez, le comportement des Maliens a changé. Vous conviendrez avec moi, je présente vraiment mes excuses. Ce n'est pas facile de parler. On s'adresse à des vieilles personnes, on s'adresse à toute catégorie de population.
Le sujet est important également.
Mais il arrive qu'aujourd'hui, les Maliens ont changé un peu de comportement. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on va appeler aux sociologues de faire une étude pour nous dire qu'est-ce qui se passe réellement maintenant. Quand vous êtes dans la circulation, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé.
Et on oublie souvent
la priorité. On s'en fout même de la priorité. Parce que moi, je suis pressé, moi, je m'en fous de la priorité. Chacun est pressé. Les motocyclistes sont pressés. Les automobilistes sont pressés. Les piétons est encore plus blessé souvent que le motocycliste ou le conducteur.
Les piétons qui n'ont pas souvent où aller, hein, car les trottoirs sont obstrués par les
commerçants ambulants. On a transformé les abords, les trottoirs, en marché, en kiosque, en boutique. Mais il arrive également que les piétons
refusent d'emprunter les passages qui leur sont réservés. Mmh. Ça aussi, ça arrive.
Mmh. Alors, les autres écoles font aujourd'hui son avocat défenseur, d'après ce que nous a dit M. Camara. Djigui Camara, son avocat défenseur des piétons, mais on va oublier un instant les piétons de votre côté. Nous allons nous accentuer un peu avec vous. Vous avez un prototype, un exemplaire du code de la route ici avec vous dans ce studio. Mmh. Est-ce que vous pensez que la plupart des chefs d'entreprise que citait madame tout à l'heure, les conducteurs de transport, d'auto, de transport en commun n'ont pas l'instruction nécessaire aujourd'hui pour décrypter tout ce qu'il y a dans le code de la route. Pensez-vous qu'il faille remodeler cela à leur niveau pour faciliter la compréhension?
Bon, oui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, hein. Parce que quand je m'en vais dans votre sens, c'est comme si j'ai nié le fait qu'ils ont passé à un concours avant d'avoir le permis. Parce que comme madame l'a dit, il faut un examen théorique et un examen pratique. Quelqu'un qui parvient déjà à passer à ces examens, c'est vrai qu'il a une certaine compréhension. Mais là, ce n'est pas parce qu'ils ont...
Ces examens, vous conviendrez avec nous que ces examens ne sont pas des examens souvent comme il faut. Il y a certains chauffeurs qui reçoivent leur permis, disons les mots comme ils sont. Certains chauffeurs reçoivent leur permis à domicile.
Voilà, tout ça c'est un problème de comportement.
Et ça, comment régler cela?
Mais moi je n'irai pas dans le sens qu'ils ont reçu le permis à la maison. Hein. Je n'ai pas été témoin, j'ai pas participé à de telles opérations. Et tous ceux qui passent chez moi, après une formation d'un mois, ils vont à l'examen, ils font l'examen, alors ce n'est pas moi qui corrige. Alors, s'ils passent, nous, on suit le dossier et puis on leur donne leur permis. Mais ce que je veux dire, c'est un problème de comportement. Hein? Est-ce que quelqu'un voudra aller payer une arme sans pouvoir connaître les maniements de l'arme? Or, le véhicule peut devenir très dangereux qu'une arme. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Comme madame l'a dit, des fois, moi, je suis écœuré de voir les chauffeurs professionnels qui veulent montrer par leur mauvais comportement aux autres conducteurs qui savent conduire. Parce que là aussi, il faut en tenir compte. Les taximans, je dirais le mot, les conducteurs de Sotrama et autres, des fois, dans leur file,
conducteur de Ben,
ils quittent complètement de la file pour faire un raccourci.
En cas d'embouteillage.
Et des fois même, ce sont nos cadres, les grandes personnes. Hein? Moi, ma route, c'est aller tout le temps, tous les jours derrière le fleuve, au niveau de Kodonso, un peu avant Oumoussangaré, au feu. Mais je vois tout le temps des gens, des vieilles personnes, des gens qui sont dans les grosses voitures. Hein? C'est eux d'ailleurs qui ont besoin de plus de sécurité que nous autres. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui font 4, 5, 6 voies parce qu'ils sont trop pressés. Vous voyez? Or, dans la circulation, on ne doit pas faire l'effet de surprise. On ne doit pas être surpris, ni peut-être être la cause de la surprise d'une autre personne. Il faut toujours prendre sa place. Mais dans notre circulation, les gens ont tendance à oublier leur place.
À partir du moment où ces conducteurs-là ont déjà leur permis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ces conducteurs puissent être au même niveau d'information que la plupart des experts de la route?
Oui, mais déjà, je ne sais pas où est-ce que vous voulez m'amener. Hein, parce que déjà, quand
comment on a recyclé,
on n'a pas besoin de recyclage.
Vous parlez d'incivisme?
Oui. Ça, c'est un problème de comportement. Ça, on a fait comment une première formation.
Ce problème de comportement?
Voilà. Là, quand même, je ne sais pas, comme madame l'a dit, peut-être il faudra faire appel aux sociologues pour déceler le problème qu'il y a. Mais comme je viens de vous dire, je suis étonné de voir de grandes personnes, de vieilles personnes, des cadres, des grands commerçants qui sont dans les voitures vraiment qui coûtent des millions, mais qui osent quand même prendre 3-4 voies là où ça n'existe pas. Vous voyez, c'est tout le problème, des fois, même dans la circulation, le problème des agents. À régulariser, des fois, c'est ça. Parce que tout le monde essaye d'aller au plus vite que pressé. Or, sur la route, ce n'est pas permis. Chacun doit rester dans sa voie. Il y a les limitations de vitesse qui sont là. Il faut toujours les respecter et être dans sa voie. C'est ce qui nous manque, un problème de comportement. Voilà. Alors, les permis sont bien délivrés.
On vous prend au mot. Alors, à la protection civile, vous êtes les premiers à arriver sur le terrain dès qu'il y a un accident. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de comportement et si oui, dans quel sens, lieutenant Cabaye?
Si vous voulez qu'on parle ainsi, changement de comportement. Bon, quand on dit que peut-être les accidents sont dus au comportement, bon, le changement qu'on veut, positivement.
Est-ce qu'il y a plusieurs sens interdits?
Oui, je vois, il y a des sens interdits, mais quand on va parler de changement de comportement aussi, c'est paradoxal et puis c'est large, quoi. Mm-hmm. C'est dans un sens large. Parce que vous voyez aussi, si nous prenons Bamako, le nombre de véhicules à deux roues, le nombre de véhicules dans la circulation, voire encore l'étroitesse des voies. Vous voyez? Parce que nous, on nous appelle. Vous trouverez même nous qui sommes dans l'urgence, nous n'avons pas le chemin clair pour aboutir. Et oui, si nous devons respecter aussi le code de la route, nous n'avons pas forcément le droit d'aller en sens interdit. Et ça se passe chez nous-mêmes dans l'instruction. Si un conducteur ou un chef de bord qui prend un sens interdit, peut-être doit être très prudent. Même les feux, nous n'avons pas, même si nous sommes un peu prioritaires, il faut que les chauffeurs fassent attention, fassent au moins un léger frein pour les imprudents qui peuvent forcer le chemin. Parce qu'aller sauver ne veut pas dire tuer pour aller sauver. Bon, du changement de comportement, moi je dirais que pour changer en réalité le comportement corporel que nous voulons, il faut aussi voir les problèmes de voie en réalité.
Les infrastructures, nous allons en parler dans la dernière partie de ce débat. La troisième partie donc de ce débat sera consacrée à cette question des infrastructures et du contrôle technique. Alors nous allons aux urgences. Monsieur Docteur Cissé, vous représentez le service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Est-ce que parmi les victimes, les blessés, on n'en parle pas assez? Est-ce qu'il y a plus de blessés qui deviennent totalement invalides aujourd'hui? Il y a plus d'invalides que l'année précédente?
Merci bien. Bon, moi, je pense que vous avez posé une question à Madame Silla. Comment dire, la prévention, c'est la prévention des accidents. Et moi, je pense qu'il y a trois comment dire, points essentiels. Elle a touché une psychothérapie. C'est l'éducation civique et morale. Et remodeler les Maliens. Deuxièmement, il y a le tenant à toucher, le véhicule, le conducteur, la psychotra. Il faut une éducation civique et morale pour les conducteurs. Les véhicules, on revient aux pneumatiques, aux visites techniques. En troisième lieu, maintenant, le goudron. Pour revenir à votre question, vraiment, les accidents font trop des victimes, dont les séquelles. Certaines séquelles sont définitives. Avant-hier, il y avait un cas comme ça, une fracture du genou. Il y a eu intervention chirurgicale, mais la personne est devenue vraiment handicapée à cause de la certaine fracture complexe. Donc, il y a beaucoup, même si le nombre d'accidentés diminue par rapport à l'année 2012, on est en 2014, par rapport à l'année 2013, mais ça laisse des blessés grave avec des séquelles définitives.
Est-ce que, juste une parenthèse, est-ce que vous avez des psychologues à l'hôpital, au service des urgences, qui prennent en charge les familles ou bien les victimes même d'accidents de circulation?
Bon, au service des urgences, on a les services sociaux. Il y a un service social comme à l'hôpital. Ils prennent des gardes, font la rotation. Chaque nuit, il y a deux éléments du service social qui sont là. S'il y a des accidentés, des blessés, vraiment, dont il n'y a pas de répondant. Maintenant, on fait appel au service social.
Ce n'est pas forcément des psychologues?
Bon, ce n'est pas des psychologues. Parce que ce n'est pas des psychologues. On fait appel au service social et ils rentrent dans la danse. Maintenant, ils informent leur chef hiérarchique pour pouvoir venir en aide à ces blessés.
Pensez-vous qu'il y ait un besoin aujourd'hui d'amener des psychologues dans le service des urgences?
Bon, en réalité, les médecins urgentistes doivent pouvoir jouer ces rôles. Parce que dans notre, ce n'est pas seulement consulter les malades, donner une ordonnance. On doit pouvoir agir sur ces versants également, la psychothérapie.
D'accord. Alors nous allons observer 2 secondes de pause avant de poursuivre la troisième partie du débat consacrée aux infrastructures et au contrôle technique sur la route.
Une réaction.
Un avis.
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Voilà, cette émission parle aujourd'hui de la sécurité routière et du rôle des acteurs. Cette troisième partie est consacrée à l'état des infrastructures et du parc roulant au Mali. Nous avons comme invité le docteur Cissé, docteur Boubacar Cissé, médecin au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, Djigui Camara de l'auto-école Wassoulou, Assa Silla, directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière. Nous avons également le lieutenant Kabaï Koulibaly de la protection civile. Alors, les infrastructures de signalisation sont-elles suffisantes, madame?
Bon.
Toujours pas.
Les signalisations, vous posez un problème que nous-mêmes nous rencontrons tous les jours, que nous recensons tous les jours. Nos routes ne sont pas suffisamment signalées. Vous savez, la route parle comme vous et moi, nous sommes en train de parler. Il a un langage universel qui est décodé par tout le monde, quelle que soit la race, le niveau. Donc, mais il arrive que les routes du Mali, l'année dernière, on a fait une étude sur toute l'étendue du territoire national pour faire l'évaluation de la signalisation horizontale et verticale. Signalisation, c'est-à-dire horizontale, les marquages au sol, et verticale, les panneaux. Mais ce qui se passe, ces panneaux, ou bien du fait même de l'état de la route, ou bien de la qualité même de la peinture, les signalisations horizontales ne restent pas longtemps. Pour les panneaux, qu'est-ce qui arrive? On a constaté que souvent, pour les nouvelles routes, ce sont la plupart du temps les villageois même qui enlèvent ces panneaux-là.
Pour fabriquer
des roues,
des casseroles.
Pour fabriquer, en faire une autre utilisation. Il arrive également que les conducteurs imprudents cassent ces panneaux et continuent leur chemin sans pouvoir réparer ces dégâts sur la route.
Justement, qu'est-ce qui se passe quand un conducteur casse un panneau ou bien un feu même?
Oui, normalement.
Qu'est-ce qui est prévu?
Ce qui est prévu aujourd'hui, on a une réglementation en la matière. Il y a une loi qu'on appelle la loi relative à la protection de la voie publique qui est là, qui a été adoptée il y a plusieurs années, qui oblige celui qui casse, qui cause dommage à la route et de réparer. De réparer.
Et c'est l'assurance qui paye ou bien
c'est pas, il y a des conditions. Les conditions sont définies là-dedans. Les sanctions qui sont prononcées par qui des droits sont définies dans la loi. Et bientôt, ils sont en train de préparer un décret d'application de cette loi pour que maintenant, on commence vraiment à sanctionner. Il n'y a pas de jour où vous-même vous êtes usager de la route que vous n'encontrez pas un poteau d'électricité cassé par un conducteur, qu'il n'y a pas de tranchée sur la route, qu'il n'y a pas de feu qui est cassé, parce que moi, je suis pressé. Toujours le mot pressé, on revient sur ça. Tout le monde est pressé. On casse un feu, on ne respecte pas le feu rouge, parce que le feu rouge fait partie de la signalisation verticale. Donc, nous, quand même, nous, en tant que service chargé de contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier, on fait un tour tous les jours pour recenser ces problèmes, faire un rapport et l'adresser à qui de droit pour qu'on prenne les dispositions.
Alors, madame, à votre suite, nous allons faire réagir monsieur Camara, Djigiba Camara de l'auto-école Wassoulou. Djigi.
Oui.
Djigi. Voilà. Au lieu de Djigiba, c'est Djigi Camara.
Djigi,
autant pour moi. Voilà. Djigi Camara de l'auto-école Wassoulou.
Oui.
Alors, Djigi, en termes de priorité aujourd'hui, vous avez le code devant vous.
Oui.
Les corbillards empruntent les sens interdits, souvent stoppent la circulation. Est-ce que cela est permis dans le code?
Ça, peut-être il faut s'en tenir à ce que madame va dire de ce côté, hein, comme il y a une rupture du
oui,
code.
Mais pour le moment, qu'est-ce que le code
pour le moment, dans le code, le corbillard ne fait même pas partie des véhicules à faciliter le passage. Si je reviens un peu en arrière, selon ce qu'a dit M. Koulibaly, il me dit qu'ils sont un peu prioritaires. Je dirais non, il ne faut pas qu'il le dise.
La protection civile.
La protection
les
civile, quand ils ont
en
mission. Non, pas les ambulances. La protection civile, quand ils sont en mission, ils sont toujours prioritaires. Ils ont une priorité absolue. Mais les autres véhicules ne doivent pas les suivre. C'est ce qui s'est fait chez nous. Quand peut-être il y a un véhicule de sapeur-pompier qui va pour une intervention ou bien qui revient pour une intervention pour rendre le malade à M. Cissé, il y a d'autres qui le suivent. Ça, ce n'est pas normal. Parce qu'ils ne sont pas véhicules prioritaires. Mais il y a les véhicules prioritaires. Comme ce n'est pas le sujet, mais je vous dirais que...
C'est
les
le sujet, ambulances, puisque ça concerne la route.
Oui, mais non, les ambulances ne sont pas prioritaires.
Les ambulances ne sont pas prioritaires.
L'ambulance, les véhicules de transport en commun et les ambulances sont dans la même catégorie. Les véhicules à faciliter le passage. Mais le corbillard n'est pas cité ni dans les véhicules à faciliter le passage, ni dans les véhicules prioritaires. Mais chez nous aussi, c'est notre traduction, il ne faut
par
pas
respect
oublier ça.
Pour les morts.
Notre coutume, par respect pour les morts, on nous apprend toujours cela, il faut respecter les morts. Alors là, on laisse la circulation au corbillard, vous voyez. Mais ils ne font pas partie des véhicules prioritaires. Et quant à la question, quand vous parlez des infrastructures, vous voyez, en matière d'accidents, on l'a fait avec l'ANASER toute l'année dernière avec plus de... Combien 1000 chauffeurs formés, on les a toujours dit que les accidents, c'est l'homme qui est à la base. L'infrastructure n'a pas beaucoup de place là-dedans. Le véhicule non plus. Sachant que la route est petite, il faut aller doucement. Sachant qu'elle est mauvaise, il faut aller doucement. Connaissant l'état de son véhicule, il faut quand même doser la vitesse. Vous voyez ? Mais c'est l'homme qui est à la base de tout ça.
Alors, nous restons sur les convois prioritaires. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous énumérer le nombre de convois prioritaires aujourd'hui ?
De véhicules prioritaires.
De véhicules prioritaires.
Oui. Les véhicules prioritaires, ce sont les véhicules...
Les habitants de Sébenikoro attendent beaucoup de
D'accord.
De
les véhicules des sapeurs-pompiers, et les véhicules de la gendarmerie, de la police, de la douane, du transport des détenus. Si dans les pays où il y a les gaz, les véhicules d'intervention de gaz où on distribue les gaz comme l'électricité, ça, ce sont les véhicules prioritaires. Mais à condition qu'ils soient en mission. C'est des véhicules qui émettent des lumières ou qui émettent des sons. Mais un véhicule sur lequel on a mis police tout court, qui n'émet pas de son ni rien, n'est pas prioritaire.
Et les cortèges
Quel genre de cortège? Non, les cortèges présidentiels deviennent prioritaires parce que ils sont précédés par des véhicules de police de gendarmerie qui ont leur sirène. En ce moment, ils deviennent prioritaires. Mais lorsque le président se met dans une voiture sans sirène, ni rien, sans gyrophare, ça devient un véhicule ordinaire.
Alors, ouais. Et le cortège de mariage?
Le cortège de mariage, ça, c'est ça. Ce n'est même pas classé, ce n'est même pas bon.
Alors, je me tourne vers le lieutenant Kabaye. Lieutenant Kabaye Koulibaly, vous êtes de la protection civile. On parle des infrastructures, mais aussi du contrôle technique. On sait que quand vous arrivez sur le terrain, c'est un constat général que vous faites sur place. Est-ce que vous, selon vos estimations et votre constat sur le terrain, les véhicules respectent de plus en plus ou enfreignent la loi concernant le contrôle technique?
Vous savez, réellement, cette situation de constat, si nous arrivions, c'est l'état de la victime réellement qui nous incombe en priorité. L'état de la victime. On peut peut-être, en cours de route, demander si c'est en ville, le concours de la police pour le constat, et si c'est en race campagne, la gendarmerie pour le constat. L'état de victime, même souvent, nous prenons la victime, c'est après peut-être l'hôpital, nous revenons maintenant pour prendre les autres renseignements sur les engins en cause. Souvent, mais c'est la victime qui est notre priorité en matière d'accident. Donc, le problème de constat, comme la police est absente aujourd'hui, ou en race campagne, la gendarmerie. Nous travaillons en concert quand même. Vous savez, chaque fois qu'on se présente, on demande. Si c'est le cas hier, on demande le concours de la police sur le terrain.
Alors, nous allons poser cette question à madame, mais juste avant, nous allons faire réagir le docteur Cissé. Cissé, vous n'êtes pas spécialiste comme les trois autres, mais vous êtes usager comme tout le monde de la circulation. Que pensez-vous de l'état des infrastructures et du contrôle technique dans le pays?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec...
Les auto-écoles.
Monsieur Camara Djigui, quand il dit que le véhicule, c'est dans le cas d'accident, le véhicule et l'état des routes là, c'est ainsi. Bon, disons, c'est minime. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quelqu'un qui doit virer à gauche, il met son clignotant à gauche, mais le clignotant ne marche pas. Celui qui est derrière, celui qui vient là, il peut commander là, jouer sur son réflexe et puis provoquer l'accident. Une route où il y a des trous, même tous les autres en venant, il y avait deux trous devant.
Des nids de poules.
Voilà, des nids de poules. Maintenant, moi, j'étais obligé, pour ne pas trop, comment dire là, me mettre dedans, en évitant ceux qui étaient derrière moi.
Ils n'ont pas compris dans lequel vous allez.
Voilà, ça peut provoquer un accident. Dans les infrastructures, ça compte beaucoup. Hein. Même un client a un freinage d'un véhicule ou d'une moto, si ce n'est pas en bon état, ça peut être cause d'accident.
Que pensez-vous qu'il faille faire aujourd'hui pour réguler ce secteur du contrôle technique?
Le contrôle technique, moi, l'autre jour, là, j'en ai vu un cas, c'est-à-dire qu'un taximan qui va pour le contrôle technique, il sait que son véhicule, s'il passe normalement, il ne peut pas passer au contrôle technique, il donne de l'argent pour qu'on lui mette comment dire, la vignette de contrôle technique. Or, son véhicule n'est pas bien. Ce sont ces genres de situations vraiment qui vont encore engendrer des accidents et des morts.
Alors, madame, là, peut-être pour nous édifier davantage sur le système du contrôle technique au Mali. Madame, vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière. Votre point de vue?
Bon, mon point de vue est que d'abord, il faut reconnaître que le parc auto du Mali est vétuste. Parce que la moyenne d'âge, c'est 15 ans. La moyenne d'âge. Il y a des véhicules qui ont plus de 25 ans, 26 ans, qui continuent même, je peux dire, plus de 30 ans d'âge qui continuent à rouler au Mali. Bon, souvent, on met tout ça sur le compte de la pauvreté parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des véhicules neufs.
À titre de rappel, le Sénégal a limité l'âge des véhicules à 5 ans.
Ok, les véhicules importés. Et nous-mêmes, on a tenté un moment.
Ça n'a pas marché.
Bon, ça va marcher. Et ce qui est sûr, contrairement à Dr Cissé, moi je dirais qu'effectivement la route a sa part dans les accidents, les véhicules a sa part dans les accidents, mais c'est l'homme qui est au centre de tout. Le véhicule, c'est l'homme qui le conduit, c'est l'homme qui conduit le véhicule sur la route. Vous savez, il arrive que moi-même, j'interpelle mon chauffeur. Tous les jours, on est sur une route, mais à un endroit de la route, il y a un trou. Tous les jours, il vient tomber dans ce trou-là. Un jour, je l'ai demandé, j'ai dit, mais toi là,
pourquoi vous pouvez pas éviter?
Pourquoi tu ne peux pas éviter? Tu sais qu'à cet endroit, il y a ce trou. Et tous les jours, tu fais la même chose. Ou bien tu fais exprès pour me donner de courbatures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que mes camarades l'ont dit, c'est exactement comme ça. Mais nous, nous avons la faculté de réfléchir et d'anticiper les choses. En anticipant les choses, nous savons qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait que son clientèle ne marche pas ne doit pas conduire ce véhicule sans réparer le clientèle. Quelqu'un qui sait que le pneu n'est pas bon ne doit pas du tout commencer à conduire sans réparer son pneu ou le changer par un pneu qui peut faire son affaire, entre guillemets.
Madame, malheureusement, nous sommes à la fin de ce.
Voilà, donc... En réalité.
Mais vous allez avoir le dernier mot.
D'accord.
Les hommes ne m'en voudront pas. Vous allez avoir le dernier mot concernant le port de la ceinture de sécurité, le port de casque. On sait que tous ces éléments-là doivent être obligatoires si on veut prévenir plus de vies. Quel est votre défi dans ce domaine?
Notre défi aujourd'hui, c'est le défi que le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, et l'ensemble du gouvernement se sont lancés par rapport à ces deux chantiers. Vous savez, le port du casque aujourd'hui est vital, et plus que vital. Nous avons la chance d'avoir la protection civile et les services des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Ce sont eux qui reçoivent les blessés. Et les 60 à 75% des blessés de la voie publique qu'ils reçoivent sont des quantités d'engins à deux roues. Et ceci, la plupart du temps, les blessures, c'est le traumatisme crânien, c'est la tête.
Que dites-vous aux parents?
Ce sont les parents qui sont interpellés. Tout le monde est interpellé, à commencer par les parents. Monsieur Camara l'a dit, on achète une moto parce que l'enfant a passé au DF ou bien a passé à son examen.
Il faut aussi mettre les moyens pour former la personne.
Il faut former la personne, ne donner pas une moto à son enfant avant de l'avoir...
Enseigner,
former d'abord sur le code de la route.
Madame, c'est fini.
Lui trouver un casque.
Merci, madame.
Merci.
Merci à vous tous pour ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi, chers auditeurs. Le débat portait sur la sécurité routière. Je suis Famoussa Sidibé. Il a été réalisé par Sekou Gadjigo. Petting Diarra était à la mise en onde. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Et toi. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halou de Mouni.
Chenibiro. C'est qui qu'il faut pas.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.